Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Donna et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Dans ce 13e épisode de Dans la bibliothèque du Paris Noir, je suis de nouveau à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, place de la Concorde, dans le 8e arrondissement. Depuis plus de 10 ans, je travaille sur la question noire en France et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où je me suis heurté au tabou de la race dans ce pays. La race n'a pas de réalité biologique, c'est une construction sociale, il ne faut pas en parler. L'esclavage et la colonisation sont finis, il ne sert à rien d'en parler. La France est une république universaliste, il ne peut donc pas y avoir de racisme ou alors moins qu'ailleurs. Souvent je serre les dents et je me tais, et puis parfois je perds patience et je dis des trucs. Des trucs sur le voile, sur les outre-mer, sur la police nationale, sur l'éducation nationale. Ou encore que l'interaction la plus violemment et ouvertement raciste de ma vie n'a pas eu lieu en Allemagne, en Louisiane, au Brésil ou en Italie, mais bel et bien en vacances à Nice. Bref, ne venez pas me chercher sur ces sujets à l'apéro. L'année dernière, je suis tombé sur Le Contrat racial de Charles Mills, un ouvrage paru aux États-Unis en 1997, mais qui n'avait jamais été traduit en France avant 2023. Le Contrat racial est un livre monument. L'auteur expose les failles du contrat social, qui est avant tout un contrat racial. Selon lui, ce contrat a façonné le système de domination européenne qui fait exister les Blancs en tant que personnes à part entière et les non-Blancs en tant que sous-personnes. Cette lecture m'a bouleversé, et ce, dès les premières lignes. Ce livre est dédié à tous les noirs, rouges, bruns et jaunes qui ont résisté au contrat racial, ainsi que les renégats blancs et les traîtres à la race qui l'ont refusé. Charles Mills nous a quittés en 2021 et pour en parler, j'ai la chance de recevoir Magali Besson. Bonjour Madame Besson, bienvenue au podcast, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais bien et vous ?
Merci, très bien. Un plaisir de vous recevoir. Vous êtes donc professeur de philosophie politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, agrégé et docteur en philosophie. Vous travaillez sur le libéralisme contemporain, les théories de la justice ainsi que sur le racisme. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
C'était le CV parfait pour répondre à mes questions. Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler sur ces sujets ?
Alors, c'est intéressant que vous ayez mentionné que le pire épisode de racisme que vous ayez vécu était à Nice, parce que je suis niçoise. Et je pense que ça joue, en effet, dans l'intérêt pour ces questions, parce que la région est une des régions, disons, en tout cas, très largement à droite, voire d'extrême droite depuis longtemps. Et en 1988-89, au moment où, en gros, je suis entrée un peu en politique à l'adolescence, comme on fait souvent, c'était aussi le moment où Jean-Marie Le Pen se présentait dans la région. Et je pense que ça aussi, ça a pas mal décidé de mon engagement antiraciste. Alors, en 88-89, c'est pas le même qu'en 2023, mais c'est de là, je pense, qu'il prend racine.
Très bien. Si j'ai bien compris, vous avez connu l'auteur, un philosophe jamaïcain qui a fait une grande partie de sa carrière dans le monde universitaire américain, qui était Charles Wade Mills.
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2018 ou 2019. On l'avait invité pour un colloque à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avec Kimberly Crenshaw d'ailleurs. C'est un colloque qui a ensuite donné lieu à un numéro spécial sur la théorie critique de la race, on y reviendra peut-être. Et Charles Mills, en effet, était un philosophe politique, jamaïcain certes, mais il a fait son PhD, son doctorat à Toronto, au Canada. Et c'est intéressant aussi de mentionner qu'il avait travaillé en doctorat sur le concept d'idéologie dans la pensée de Marx et Engels. Donc, ce n'est pas un sujet classique, disons, dans le monde anglo-américain. Avant d'être, et moi quand je l'ai rencontré, il venait d'être nommé prof à CUNY, c'est-à-dire City University of New York, en 2016.
On en parlera aussi un peu plus tard. J'ai visionné une vidéo d'une conférence de Charles Mills dans les années 2010 et j'ai été surpris par deux choses, son sens de l'humour et aussi, c'est peut-être un détail, mais il avait gardé son accent jamaïcain. Ce qui, pour moi, dans le monde académique, en philosophie, etc., on gomme un peu ces choses-là, on s'assimile vraiment. Et il dit un truc du genre « Thank you for the invitation ». Et c'est pas du tout... Oui, comme tout le monde, j'ai des préjugés, c'est pas du tout ce que j'imagine de la part d'un prof de philosophie.
Avant d'avoir un PhD en philosophie, il a quand même été... il a eu un diplôme en physique et il a été longtemps prof de physique en Jamaïque. Et en effet, il est au départ citoyen. Alors, il est né à Londres. Ensuite, il a grandi à Kingston et il est devenu citoyen états-unien vers la fin.
Publié en 1997 aux États-Unis, le contrat racial de Charles Mills place la justice raciale au centre de ses analyses. Quel est le contexte de la sortie du livre et quelle a été sa réception plutôt ?
Donc le livre date de 1997. Alors c'est un moment important et le contexte, il y a peut-être deux contextes à rappeler, le contexte intellectuel d'une part et le contexte peut-être politique d'autre part. Sur le plan intellectuel, donc le livre s'appelle « Le contrat racial ». Et c'est en écho une réponse à deux choses. D'abord, à un livre très important dans le champ de la philosophie politique, en tout cas anglo-américaine, qui est le livre qui s'appelle « Théorie de la justice » de John Rawls, qui est paru en 1971. Et qui reprend la théorie du contrat, donc la théorie classique du contrat. Pour nous, on la renvoie à Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, voilà. Mais Rawls, en 71, reprend cette théorie classique du contrat pour en faire un outil heuristique, un outil de compréhension et d'interprétation du fonctionnement moderne. Parce qu'il voit dans le contractualisme un outil critique, c'est-à-dire avec le contractualisme, et c'est ça qui est intéressant pour John Rawls, et c'est ça que Charles Mills reprendra. On a l'idée que l'ordre politique, ou l'ordre social, ou même l'ordre moral, n'est pas hérité de la nature, ou bien d'un commandement divin, mais il est conventionnel, il est fait par les humains, et donc, toutes les inégalités ou les injustices qu'on peut identifier, ben, on peut les défaire. C'est-à-dire, si c'est nous, les humains, qui les avons choisis, ben, on peut peut-être travailler à choisir d'autres, un autre ordre politique, moral ou social qui permette de répondre aux injustices. Et c'est avec ça que John Rawls pense la société et les principes de la justice que nous pourrions vouloir choisir ensemble pour une société juste. Donc, qui soit une société véritablement égalitaire. Le contrat de John Rawls, c'est un contrat égalitariste et pour une société, pour une théorie de la justice égalitariste. Donc ça, c'est un premier moment important parce que Mills s'empare du contractualisme rawlsien et ensuite, alors, va le modifier, on va y revenir, j'imagine, mais le modifier et pas seulement le nuancer, mais vraiment le renverser pratiquement en faisant une arme contre certaines inégalités que Rawls ne voit pas, ne traite pas dans la théorie de la justice. Deuxième point intellectuel.
Je me permets de vous interrompre, il a des mots assez durs à l'égard de John Rawls, si je ne me trompe pas.
Oui, il reproche à Rawls justement d'avoir fait un contrat, enfin d'avoir pensé plutôt les principes d'une justice idéale, en oubliant complètement un ordre de domination massif qui traverse alors, non seulement les États-Unis, mais même l'ordre global, mais en tout cas au moins les États-Unis, qui est ce sur quoi Rawls se centre, qui est l'ordre racial. Et Mills dit, Rawls a été complètement aveugle. Il n'y a jamais trace ou presque de réflexion sur la race, le racisme, les inégalités raciales, les discriminations dans toute l'œuvre de Rawls, et pas plus parmi les commentateurs. Et je crois qu'il reproche encore plus aux commentateurs de ne pas avoir utilisé le dispositif rawlsien. Rawls ne l'a pas fait, bon, dont acte, mais 30 ans après, presque 40 ans après, c'est inimaginable qu'on ne puisse pas mobiliser Rawls pour avancer dans le sens d'une justice raciale. Et donc, c'est ce que fait Mills. Mais ce faisant, il y a un deuxième élément, il y a une deuxième référence qui est importante, c'est un ouvrage qui s'appelle « Le contrat sexuel ». Et le contrat sexuel, c'est un livre qui est paru en 1988 par la philosophe Carol Patman, dans ouvrage dans lequel elle déjà refait le geste que Mills reprend à son compte, mais pour traiter les inégalités raciales, et elle traite des inégalités alors sexuelles en dénonçant le patriarcat et de la même manière en disant en fait, qui sous-tend le dispositif ou le mécanisme du contrat social, il y a un autre contrat, le contrat sexuel, qui est au fond le contrat qui permet aux hommes blancs de pouvoir devenir des partenaires à part entière dans une conversation à propos des principes de justice. Mais les hommes blancs ne peuvent le faire que parce qu'ils s'appuient sur un contrat sexuel dans lequel les femmes, elles, ne participent pas et au contraire conditionnent la possibilité pour les hommes blancs, disons, de faire de la politique, pour le dire très vite, quoi. Donc, Mills reprend un peu la critique de Patman et alors, de manière différente, pareil, on y reviendra peut-être, mais en rejouant ce geste de prenons dans le contractualisme ce qu'il y a d'éléments potentiellement critiques, c'est-à-dire une vraie critique de l'ordre tel qu'on l'a construit, pour pouvoir aller dans le sens d'une plus grande dénonciation des inégalités qui traversent notre société. Et alors, ces inégalités, et ça, c'est le contexte politique de 1997, donc de la parution du contrat racial. Dans les années 90, aux États-Unis, l'idéologie dominante, c'est l'idéologie de ce qu'on appelle la color blindness. Et donc, c'est le moment où, après les espoirs suscités par le mouvement pour les droits civiques, donc qui, à partir de 1954, mais surtout avec le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965, a fourni une égalité formelle, légale, pour les Africains-Américains. Or, dans les années 80, donc 20 ans après, et donc au début des années 90, on s'aperçoit que cette égalité formelle n'est pas du tout accompagnée d'égalité réelle, et qu'en réalité demeure énormément de discrimination et d'inégalité qui séparent à peu près dans tous les domaines, disons, le groupe des Blancs et le groupe, en tout cas, des Africains-Américains. C'est aussi à la fin des années 80, au tournant des années 90, le mouvement d'apparition de ce qu'on a appelé la Critical Race Theory. Et la Critical Race Theory, c'est donc un mouvement d'abord apparu en droit.
Oui, vous parliez tout à l'heure de Kimberlé Crenshaw.
Voilà, oui. Exactement. Un mouvement d'abord apparu en droit avec notamment Kimberlé Crenshaw, mais d'autres juristes critiques, Derrick Bell, Marie Matsuda, enfin, il y a tout un ensemble de personnes qui se retrouvent et qui, disons, à partir de la fin des années 80, début des années 90, estiment que, au fond, avec le droit colorblind, donc indifférent à la couleur, qui est celui qui est massivement appliqué dans les cours, dans toutes les juridictions, à tous les niveaux du système états-unien, on atteint une limite dans la véritable émancipation des Africains-Américains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la colorblindness, au départ, quand le concept est apparu, donc le concept apparaît dans l'opinion dissidente du juge Harlan, dans le célèbre arrêt Plessy contre Ferguson de 1896,
qui crée justement les catégories
ségrégation
et le séparé mais égal.
Voilà,
oh, d'accord.
Exactement. Ouais. C'est l'arrêt qui constitutionnalise la ségrégation en disant que tant que les Blancs et les personnes de couleur sont traités également, de manière égale, peu importe s'ils sont séparés dans tous les domaines de la vie publique. Et dans son opinion dissidente, donc contraire à l'opinion de la Cour, le juge Harlan insiste sur le fait, dit-il, que si notre constitution est aveugle à la couleur, donc colorblind, et ne connaît ni ne tolère de classe de citoyen. Donc à ce moment-là, quand le juge Harlan l'utilise, c'est pour critiquer la ségrégation, en disant non, il ne faut pas distinguer les citoyens aux États-Unis en fonction de leur couleur, c'est-à-dire en réalité de leur race. Donc le concept a d'abord été mobilisé pour s'opposer à la ségrégation, mais à partir des années 70, les juges en font une lecture extrêmement formaliste et il devient plutôt enrôlé comme un outil de maintien de l'inégalité raciale. En gros, l'idée est que, au nom de l'indifférence à la couleur, aucune distinction de race ne doit jamais être admise dans aucune décision ou loi que ce soit, quelle que soit la raison pour laquelle on aurait besoin de mobiliser les catégories raciales. Donc certes, elles ne peuvent pas être utilisées pour perpétuer les inégalités, mais elles ne peuvent pas non plus être utilisées pour corriger les inégalités raciales. Les juges adoptent des logiques symétriques extrêmement rigides dans l'usage et l'interprétation juridictionnelle du principe. Donc aucune catégorie raciale, quelle que soit la visée de son usage, n'est considérée comme constitutionnelle, comme conforme à la Constitution. Et donc, la colorblindness devient un principe qui fonctionne comme un obstacle à la réalisation de l'égalité raciale. Et c'est avec cette critique-là que les tenants de la Critical Race Theory essaient de penser une meilleure approche critique du droit antidiscriminatoire états-unien. Et Charles Mills se rattache à ce courant de la Critical Race Theory en incarnant ce qu'il nomme dans un article de 2016 la philosophie critique de la race. C'est-à-dire, au fond, ce que les juristes font dans le domaine du droit, lui suggère qu'il faut le faire, parce que pour l'instant, ça n'a jamais été fait, dans le domaine de la philosophie, en proposant une philosophie critique de la race.
Ça devait arriver un petit peu plus tard, mais vu que vous avez embrayé justement sur le concept de colorblindness, Je voulais vous parler de l'année 2023 et de la Cour suprême des États-Unis qui interdit le recours à la discrimination positive dans les universités du pays. L'affirmative action, qui si en France on confond trop souvent avec une politique de quotas, c'était une mesure qui avait l'ambition d'atténuer des siècles d'inégalités et de marginalisation. Et ce qui m'a le plus surpris justement dans cette affaire, c'est l'utilisation d'arguments colorblind. Je ne vois pas les couleurs. Comme l'explique la journaliste Nicole Anna Jones, c'est une récupération donc du discours des droits civiques. Je cite Martin Luther King, « Je rêve qu'un jour, mes quatre enfants vivront dans un pays où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur personnalité. »
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Et une récupération donc, par les mouvements conservateurs pour maintenir un statu quo. Personnellement, donc, j'y vois un lien direct avec l'œuvre de Mills, mais aussi un parallèle troublant avec un discours français. Vous avez enseigné à la prestigieuse université de Princeton. Est-ce que vous voyez un lien entre ce discours républicain états-unien et un discours républicain français ?
Alors oui, juste en preuve, je n'ai pas enseigné à Princeton. C'était juste un séjour de recherche. Mais oui, alors... Il y a un lien, bien évidemment. L'idéologie républicaine française classique est une idéologie de l'indifférence aux différences, explicite, enfin reconnue comme telle, où les citoyens français doivent être considérés par la loi, mais aussi donc par l'administration, dans les politiques publiques, comme des individus abstraits, porteurs de droits et de droits tous égaux. De telle sorte qu'on ne puisse pas faire de privilèges. Hein. C'est quand même, je veux dire, chez nous en France, il y a l'abolition des privilèges qui est en arrière-pensée au fond de cette indifférence aux différences. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire de privilèges pour tel ou tel citoyen en raison de critères qui n'ont pas entré en ligne de compte lorsqu'on considère les droits. Cette indifférence aux différences ou cette colorblindness, en effet, le problème, c'est qu'elle fait comme si l'égalité était réalisée et que notre travail soit de la maintenir en l'état. Or, le problème massif, c'est que l'égalité est une visée, est un objectif. C'est en effet quelque chose que, en tant que citoyen un peu attaché, disons, à la justice, à l'égalité, à l'émancipation, on s'efforce de réaliser, mais qui n'est pas du tout déjà un donné de notre environnement social et politique. Donc, pour arriver à produire l'égalité réelle, dans la mesure où elle n'est pas déjà acquise, il faut, semble-t-il, et c'est ce que dit Mills, et c'est ce que disaient les tenants de la Critical Race Theory, et c'est ce que disent ceux qui défendent les politiques d'affirmative action ou de discrimination positive, comme on peut le traduire en français, il faut, pour l'instant, tenir compte des différences, donc des différences raciales en l'occurrence, mais ça vaut aussi pour les différences de genre, pour les différences d'orientation sexuelle, pour les différences de handicap, etc. Donc il faut tenir compte des différences réelles de manière à offrir à tous, en fonction des inégalités dans lesquelles nous nous trouvons, un véritable moyen d'accès à réaliser les opportunités, les compétences, les capacités, à avoir accès aux ressources matérielles et symboliques réelles telles qu'on peut les voir offertes. Aux États-Unis, en effet, l'arrêt de juin 2023. Alors, l'arrêt de juin 2023 n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein qui aurait été celui de la
discrimination. Ça faisait des décennies que la droite essayait d'obtenir
exactement
la tête de...
Et que les conditions se durcissaient à chaque arrêt de la Cour suprême pour pouvoir continuer à mobiliser le facteur race dans les critères d'admission dans les universités dans lesquelles il y avait... Parce qu'il y avait déjà des États dans lesquels il n'y avait plus de politique d'affirmative action depuis...
La Californie, la Floride, ouais,
exactement. Ouais. Donc l'arrêt de juin 2023, au fond, ne fait que confirmer une tendance qu'on voyait déjà à l'œuvre depuis un moment. Maintenant, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'il devient extrêmement difficile partout aux États-Unis, et pas simplement dans les États où c'était déjà le cas, de mettre en place des politiques d'affirmative action pour des étudiants minorisés sur le plan racial. Il faut que les bénéfices de la diversité raciale soient très explicitement démontrés. Il faut que les catégories ethno-raciales pertinentes soient montrées comme étant pertinentes, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas simplement sur les catégories du recensement états-unien. L'idée étant, d'accord, mais si Ce qui est important, c'est la diversité des expériences, des points de vue, des idées des étudiants. Alors pourquoi ne pas favoriser des étudiants venus d'Amérique latine, des étudiants venus du Moyen-Orient ? C'est-à-dire pourquoi se concentrer uniquement sur les catégories raciales ou ethniques du recensement états-unien. Donc voilà, ça va être très compliqué. Ils veulent que les universités aient une approche à la fois plus individualiste pour chaque étudiant en considérant son parcours, sa trajectoire, son projet comme un tout et en considérant l'ensemble de ses expériences également telles qu'elles seront évaluées par un essai qui sera rédigé. Enfin, donc, ça devient très compliqué à mettre en place, donc beaucoup plus coûteux. Et en fait, ce qu'on va voir vraisemblablement, c'est une grande différence entre les universités riches et les universités pauvres, parce que certaines n'auront pas les moyens de mettre en place ce type de, disons, de discrimination indirecte que les universités californiennes, par exemple, ont mis en place depuis que la discrimination positive a été officiellement interdite. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Et là, on attend un peu les premiers résultats qui vont être ceux de la cohorte. Oui. Voilà, c'est ça, de la cohorte sélectionnée pour la rentrée.
Je voudrais qu'on revienne donc au livre. Selon Mills, la philosophie est le champ académique le plus blanc. Donc, je vous parlais d'une conférence de 2013 où il affirme que la philosophie ressemble à l'Antarctique. C'est un continent immense, gelé, froid, hostile et blanc.
The comparison I used to use is that mainstream philosophy is something like Antarctica. It's sort of in a giant, frozen, hostile, white continent in which a few scattered figures of color try to make progress before they're sort of blown back into the sea by gale force winds. Problem, your metaphors have to keep pace with the times. Global warming, all kinds of brown spots everywhere. My prediction is Antarctica will turn brown before philosophy does. No, this isn't positive. This is something negative. You shouldn't be applauding. You should be sort of, you know, gnashing your teeth and wailing. Anyway.
Dans le livre, il affirme que cette blancheur, ou plutôt blanchité, n'est pas le fruit du hasard. Les philosophes ont-ils une responsabilité ou une complicité dans la création de la suprématie blanche ?
Oui, alors c'est l'argument de Mills, en effet. Il dit aussi que si vous allez à un congrès de l'American Philosophical Association, il faut pas que vous oubliez vos lunettes de soleil parce que toute la blancheur pourrait vous éblouir tellement elle est éclatante. Donc oui, premièrement, la philosophie est majoritairement le fait, en effet, de penseurs blancs. Et j'en profite pour préciser que blanc, indépendamment des métaphores visuelles que Mills mobilise à juste titre, enfin, voilà, il travaille aussi sur ces métaphores, blanc n'est pas d'abord une couleur. Blanc est d'abord un ensemble de systèmes de positionnement et de situations socio-économiques, académiques, cognitives, culturelles, etc. Mais donc la philosophie est majoritairement blanche, également aussi en raison de son canon et du récit que la philosophie fait d'elle-même et du type de discours qui est le sien. Et Mills dit, si on ouvre un ouvrage, un manuel de philosophie, notamment pour les licences, disons, plutôt que pour les masters où on commence un peu à se spécialiser, mais on aura Platon, Aristote, Augustin, Thomas d'Aquin, Machiavel, Hobbes, Locke, Mill, Marx, Rawls, Nozick. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'en France, on n'aurait pas tout à fait exactement les mêmes, mais on n'aurait pas les mêmes, mais on aurait des hommes blancs. Donc, en ce sens, il a tout à fait raison. On aurait Rousseau et Foucault vraisemblablement.
Oui. Mais pas justement ce qu'on appelle, à mauvais titre, les anglo-saxons du côté français.
Beaucoup moins, ouais, en beaucoup effet, moins, oui. Beaucoup moins. Je pense que Rawls ferait partie de ce panthéon, mais en effet, on aurait Foucault ou Derrida.
Et même pas sûr, il y a eu une émission de France Culture, justement, il me semble que vous y participiez, pour dire que Rawls était à peine étudiant en France, que... Enfin bref, on va pas refaire le débat, mais oui, excusez-moi, je vous laisse reprendre.
Non, mais vous avez raison, le canon... Américains, le canon français ne sont pas tout à fait les mêmes canons et je pense qu'on peut même dire que le canon en effet dans le monde anglophone et le canon européen ne sont pas tout à fait les mêmes canons. Mais dans les deux cas, ils sont caractérisés quand même par la très très grande place accordée aux hommes blancs. Et je regardais les auteurs au programme de terminale, puisqu'en France, contrairement à ce qui est le cas aux États-Unis, mais en France, on a de la philosophie en classe de terminale. Il y a des auteurs au programme, il y a 83 auteurs, il y a 6 femmes. Aucun homme noir, mais une femme noire bien, à plus forte raison, mais il y a 6 femmes seulement. Donc, je veux dire, on est quand même dans un canon masculin et blanc. Alors pourquoi ? D'abord à cause de l'histoire, quand même, de la domination épistémique, c'est-à-dire de la domination dans le champ du savoir, des hommes dans l'histoire de l'humanité et des hommes européens dans l'histoire de l'humanité et en raison, je pense aussi, du récit que la philosophie fait d'elle-même comme cette discipline de la rationalité. Et la rationalité, elle est grecque. Et la rationalité est en progrès constant, une forme de téléologie, de récit téléologique de la rationalité depuis, disons, les pythagoriciens et puis les présocratiques et voilà, jusqu'à la philosophie du XXe siècle et chacun construisant sur les épaules du précédent, qu'il y a quelque chose comme une rationalité occidentale, des lumières européennes qui sont, au fond, ce vers quoi on tend. Alors maintenant, je dirais quand même aussi que il me semble que la philosophie était plus massivement masculine et blanche encore en 1997, donc au moment de la sortie du contrat racial, qu'en 2024, au moment où nous parlons. C'est très vrai, je crois, aux États-Unis, où il y a eu vraiment une vraie avancée, entrée de personnes issues de minorités, alors encore une fois, quelles que soient ces minorités, dans le champ de la philosophie. C'est un peu moins vrai en France, où on lutte encore pas mal.
On pensait qu'on en avait, avec le communisme, on en avait fini avec l'idéologie elle-même. Elle renaît, cette idéologie, sous la forme du wokisme. À nouveau, il y a d'un côté le mâle blanc prédateur hétérosexuel, et de l'autre, sous l'égide du concept d'intersectionnalité, les femmes, les minorités raciales, les minorités sexuelles et la planète. Voilà, si vous voulez.
Mais de quoi avez-vous peur ?
J'ai peur d'abord. De quoi
le
j'ai peur ?
Le mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans que vous êtes, de quoi a-t-il peur ?
Ben, c'est moi.
Est-ce que... Mais j'ai bien compris, c'est pour ça que je vous interpelle.
Ben, oui, ben, j'ai pas peur, je sais me défendre.
Peur de perdre un statut ?
Je sais me défendre.
Il y a quand même l'arrivée de philosophes issus, enfin, philosophes, j'entends par là sur le plan académique, hein, universitaire, avec des positions universitaires, disons, issus des minorités. Et je pense que c'est sous l'effet, depuis le tournant du XXIe siècle, d'une tendance de la philosophie à réfléchir un peu à ses propres conditions d'énonciation, c'est-à-dire au fait qu'il n'est pas complètement anodin qu'une parole soit prononcée par un individu avec un corps pris dans une situation sociale, économique, mais même géographique particulière ou géopolitique. Et je pense que la philosophie commence à faire ce que d'autres sciences humaines et sociales ont fait un peu avant, c'est-à-dire réfléchir à qui parle lorsqu'on énonce des discours, même si ce sont des discours à prétention universaliste.
On peut également lire dans le contrat racial, que l'esclavage dans le Nouveau Monde et la traite transatlantique sont étroitement liés à la création du concept de race tel qu'on le connaît. Pourquoi ? Et justement, je veux bien insister sur le fait qu'ici, il n'y a pas de fatalisme ou d'essentialisation des Blancs. Dans un monde parallèle, on aurait pu être confronté à une suprématie verte, fuchsia, noire ou fluo. Je pense notamment à un livre que je viens de lire qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Civilisation » de Laurent Binet, qui est une uchronie où c'est les Incas qui découvre avec des guillemets l'Europe. Voilà pourquoi dans notre réalité à nous, c'est l'esclavage, c'est la traite qui ont contribué à modeler la race telle qu'on la comprend.
Oui, c'est une très bonne question. Alors, vous avez raison de dire, et Mills le dit explicitement, que dans notre monde, disons, ce qu'il appelle la suprématie blanche est un ensemble de relations de pouvoir qui organise le monde. Mais, dit-il, il faut détacher conceptuellement la blanchité comme cet ensemble de relations de pouvoir de la blancheur qui serait donc une sorte de couleur. Et il dit, dans un univers parallèle, en effet, on aurait pu avoir une blanchité jaune, rouge, brune ou noire. Ça, ce sont les termes de Mills. Simplement, vous avez raison, dans notre univers, donc celui qu'on connaît, notre univers réel, historiquement construit, c'est la domination européenne sur le reste du monde qui a construit ce que Mills appelle la suprématie blanche, c'est-à-dire cette distinction fondamentale du monde entre blanc et non-blanc, encore une fois, ces catégories s'entendant comme catégories géographiques, européens et non européens, mais aussi, dit Mills, comme des catégories culturelles, c'est les civilisés contre les sauvages ou barbares, là encore ce sont les termes de Mills, mais il s'agit de construire un monde de européens contre non-européens, blancs contre non-blancs, où les blancs dominent le reste du monde.
Blanc comme malade, blanc comme à la mort. Blanc c'est blanc, l'histoire est accablante. Blanc, blanc comme le vrai méchant. Blanc comme le père du chétan. Blanc, 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 blanc comme Dieu. Blanc, 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 blanc comme blanc, 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 blanc comme Banco, blanc comme Banco, blanc comme Banco.
Et donc, dit Mills, il y a trois thèses. La première, c'est la suprématie blanche existe. Donc, c'est une thèse qu'il appelle existentielle. La deuxième, la suprématie blanche est un système politique. Et ça, c'est une thèse conceptuelle. Il ne faut pas se tromper. On parle de système politique et pas naturel ou pas métaphysique ou ontologique. Et troisièmement, on peut théoriser la suprématie blanche avec l'outil du contrat en regardant comment le contrat racial a construit, consolidé, maintenu ce système de suprématie blanche. Et c'est ce contrat racial qui sous-tend le contrat social moderne. Et donc, le contrat racial est un contrat historique. Et donc, on peut dater l'arrivée de cette organisation du monde, cette organisation globale du monde, en système de pouvoir hiérarchisé. Et c'est la raison pour laquelle, avec le contrat racial et au moment du contrat racial, arrive la race, puisque c'est le contrat racial qui construit la race. La race n'est pas une catégorie essentielle qui séparerait les humains selon des propriétés qui les définiraient une bonne fois pour toutes. La race est historique, la race est une invention politique. Et la philosophie politique doit prendre en compte cette histoire de la construction des conditions et des normes dans lesquelles nous vivons. En l'occurrence, dit Mills, l'âge d'or de la théorie du contrat coïncide avec deux choses, et en particulier avec la croissance du capitalisme européen au XVIIe, XVIIIe siècle et le colonialisme expansionniste disons, la conquête des Amériques, puis la traite qui a suivi disons, la conquête des Amériques dans les espaces coloniaux. Et c'est ça, en fait, c'est cette conjonction de théorie du contrat, capitalisme et colonialisme qui construit les identités de race ou les groupes comme des groupes racialisés. C'est la raison pour laquelle la race et l'esclavage, disons, ne sont pas intrinsèquement liés. Ce n'est pas la race qui fait l'esclavage ni l'esclavage qui fait la race, mais ce sont des données qui apparaissent en même temps pour fournir un sens global à un monde dans lequel les Européens, conquièrent, exploitent, asservissent, massacrent les autres populations non blanches. Penser en termes de contrat racial permet de comprendre l'idéologie qui a accompagné et justifié cette conquête européenne. Et c'est la raison pour laquelle, avec le contrat racial, on pense en termes historiques et réels. C'est-à-dire qu'on observe comment la domination européenne par les empires coloniaux qui couvrent la surface du globe s'est mise en place et a produit les outils de justification de ces pratiques.
When you examine at close quarters the colonial context, it is evident that what defines one's place in the world is the fact of belonging to or not belonging to a given race, a given species. In the colonies, the economic substructure is also a superstructure. The cause is the consequence. You are rich because you are white. You are white because you are rich.
Pour rebondir sur tout le débat autour de la race qui n'existe pas, je pense que moi, un peu de façon concrète à travers mon activité, une des choses que j'utilise pour un peu débunker le concept de race, c'est de dire que la même personne, ou en tout cas parfois la même personne, à une époque ou dans un espace différent, ne va pas faire partie de la même catégorie raciale, ce qui prouve bien que ce genre de catégorisation est profondément culturelle, donnée, etc. Et au début du XXe siècle, 85% de la surface de notre planète est sous domination européenne. Comment expliquer cette ascension ? Donc Mills dit « Les théories avancées sont variées. Qu'elles soient ouvertement racistes et déterministes ou qu'elles soient culturalistes et plus subtiles, elles ont toutes tendance à minimiser le rôle de la conquête coloniale et de l'esclavage des Africains. L'Europe s'est épanouie par elle-même en raison des caractéristiques particulières de l'Europe et des Européens. Ces explications ignorent la place que la violence a occupée dans cette ascension. » Est-ce que c'est ça, l'ignorance blanche ?
Alors, ouais, il y a deux, allez, encore une fois, très bonne question, il y a deux points très importants, je crois. Le premier, c'est que, oui, ce que dit Mills, et ça, c'est vraiment fondamental, c'est que la race est une construction sociale, et c'est une construction sociale qui est apparue, enfin, que le contrat racial a produite, et qui est apparu pour justifier des pratiques, encore une fois, de domination, voire d'extermination. Et il n'y a donc pas de domination par nature ou de supériorité naturelle d'un groupe qui serait celui des Européens, dont, je ne sais pas, l'essence ou la vocation serait... un, de dominer, et deux, éventuellement, hein, parce qu'il y a quand même tous ces discours derrière qui apparaissent dès le 18e, qui sont très forts au 19e siècle, de civiliser d'autres groupes qui seraient, par définition, par essence, encore une fois, inférieurs ou pas arrivés au même degré de développement moral, économique, culturel, etc. Et ça, Mills dit, attention, c'est un discours, justement, qui ne prend pas en compte le fait que la race est une catégorie construite par et pour le processus, la justification du processus de conquête. Et c'est, en, disons, la race est une catégorie sociale qui se déguise en catégorie naturelle pour pouvoir asseoir la justification de la conquête. Et de ce point de vue, la date importante, dit Mills, de la modernité, c'est pas 1648. 1648, c'est le traité de Westphalie. C'est le traité qui met fin à la guerre de 30 ans. Et c'est un peu le traité par lequel, au fond, le droit international, prend un peu les couleurs qu'il aura aujourd'hui, enfin, qu'il a encore aujourd'hui, avec l'idée que les États se reconnaissent comme des États souverains, en interdisant le droit de conquête, ou en tout cas se reconnaissant comme des partenaires, des pairs de traités qu'il va falloir remplir. Donc, au lieu de considérer que 1648 est le début de la modernité, Mills dit le début de la modernité, c'est 1492. Et pourquoi c'est 1492 ? Deux raisons. Un, évidemment, c'est la conquête des Amériques par Christophe Colomb, enfin de ce qui deviendra les Amériques par Christophe Colomb.
Nos savants croient que l'océan est infranchissable, Seigneur Colomb.
Que disait-on de la ville de Grenade jusqu'à aujourd'hui ?
Et deux, c'est l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique.
C'est-à-dire la reconquête.
Exactement. On a une double, disons, 1492, en tout cas sur le plan symbolique, hein, bien évidemment, c'est toujours très symbolique ce genre de date, mais c'est quelque chose qui marque l'arrivée massive d'un système racial dans les représentations des Européens qu'ils se font sur eux-mêmes et qu'ils se font sur le reste du monde. Et ça, je pense que c'est avec 1492 qu'on arrive à 1914, c'est-à-dire qu'on arrive à ce dont vous parliez, le
85%
début,
voilà, de la planète,
ouais. Le début du XXe siècle et l'idée qu'à ce moment-là, les Européens ont étendu leur emprise, soit avec des colonies de peuplement, soit avec des colonies d'exploitation, sur pratiquement l'ensemble du globe. Et c'est pour ça que Mills dit... On ne peut pas comprendre le monde qui nous entoure en philosophe si on ne comprend pas l'histoire. Et il dit à plusieurs reprises, attention, j'écris beaucoup d'histoires, je fais l'histoire, l'histoire du concept de race, mais aussi l'histoire des pratiques, l'histoire des politiques, etc. Parce que les philosophes ont tort de ne pas historiciser leurs concepts. Ça ne leur permet pas un diagnostic correct du monde qui les entoure. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'ignorance blanche. L'ignorance blanche, c'est la manière dont les dominants se rendent eux-mêmes, disons, incapables de percevoir la réalité du monde qui les entoure, parce que la domination sociale, économique, etc., s'accompagne en réalité de défaillances ou de défauts épistémiques. Le fait d'être dominant fait que certaines expériences de subordination ou d'exploitation...
L'exemple des hommes et des femmes est un exemple assez parfait.
Absolument. De...
Moi, je trouve que le sexisme, en vrai, ça va. Et je voudrais justement citer Mills, « Le poisson ne voit pas l'eau et les Blancs ne voient pas la nature raciale d'une entité politique blanche parce qu'elle est naturelle pour eux. »
Exactement. C'est ça l'ignorance blanche. Exactement. C'est l'ignorance de sa propre position de privilège en raison de l'incapacité à percevoir le milieu du coup naturalisé, hein, comme l'eau pour le poisson, le milieu naturalisé dans lequel leur propre position et leur propre situation se trouvent. De telle sorte que les personnes blanches ne se rendent pas compte de l'existence d'un contrat racial, tant la suprématie blanche a érigé la blanchité comme une norme, rendant pour ainsi dire le système d'oppression invisible à leurs propres yeux. Et c'est la raison pour laquelle Mills dit qu'il est fondamental, enfin qu'il tient à proposer le concept de contrat racial dans le champ justement de la philosophie et dans le champ plus globalement de l'espace public pour réfléchir à notre condition. Les concepts, dit-il, sont extrêmement importants pour l'apprentissage, pour les savoirs, les concepts. Enfin, avec les concepts, on classe, on identifie, on mémorise, on déduit, on fait des analogies, on résout des problèmes. Et si un concept est absent, en réalité, il nous manque un outil fondamental pour penser notre monde, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, pour l'identifier, le comprendre, le connaître, etc. Donc, Mills, en proposant le concept de contrat racial, entend remédier à l'ignorance blanche. C'est une manière pour lui de proposer un outil d'explication, un outil de résolution du problème politique majeur de notre temps. Ce qui veut dire, et ça aussi c'est fondamental, que l'ignorance blanche peut se corriger. L'ignorance blanche n'est pas un donné définitif auquel on ne pourrait rien changer. Quand il écrit le contrat racial, il s'adresse aussi aux blancs ignorants.
Salut les blancs. Désolé, je suis désolé, excusez-moi. Non, parce que en fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise, c'est trop blanc. Voilà. Non, mais voilà.
C'est-à-dire qu'il s'adresse aussi à ses pairs dans sa profession, aux philosophes, pour essayer de montrer comment la race a joué un rôle causal, crucial, en raison de lignes de partage cognitives ou épistémiques, distinguant ceux qui sont autorisés à penser et à interpréter le monde, ceux dont la parole est décrédibilisée et donc qui ne sont pas considérés comme proposant des interprétations crédibles ou plausibles. Et Mills nous donne ce concept de contrat racial pour qu'on s'en empare, pour qu'on comprenne mieux notre monde et pour qu'on modifie les lignes d'inégalité et d'oppression qui le traversent.
Je voudrais faire un petit pas de côté pour parler d'un mot, d'un concept qui génère beaucoup, beaucoup d'incompréhension en fonction de la langue qu'on parle. C'est le mot libéralisme. J'ai l'impression que libéralisme, dans un contexte français, c'est le centre-droit, et j'ai l'impression que dans un contexte anglo-américain, c'est le centre-gauche. Mills, il veut se réapproprier le libéralisme, mais en même temps, il a une formation plutôt marxiste-marxienne. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur ça ?
Ah oui, ça aussi, c'est encore une grande question. Alors, vous avez raison, le libéralisme est un faux ami selon qu'on est aux États-Unis ou en France. Moi, je vais me placer aux États-Unis avec Mills. Aux États-Unis avec Mills, le libéralisme, en particulier dans sa forme politique, qui est celle de Mills, le libéralisme, c'est ce type de pensée, oui, on peut dire de centre-gauche, c'est ce type de pensée qui dit qu'il y a quelques éléments extrêmement importants pour penser une société, disons, juste et démocratique. Les sujets politiques, vous et moi, sont des sujets qui doivent être autonomes. L'ordre politique dans lequel nous nous trouvons, nous devons y avoir consenti. Donc, il faut qu'on valide l'ordre politique. Nous sommes des porteurs de droits subjectifs inaliénables et nous avons des libertés individuelles que nous devons défendre et garantir. Et ça, c'est la fonction de l'État. Et je pense qu'avec ça, donc un sujet individuel, autonome, porteur de droit, un ordre social auquel on a consenti, d'où le contrat, et une garantie des libertés individuelles, on a le cœur du libéralisme politique. Bon, Mills dit en effet, alors qu'il vient du marxisme, Mills dit que le libéralisme a été historiquement un libéralisme souvent ce qu'il appelle un libéralisme racial, c'est-à-dire un libéralisme qui a instauré une égalité, une autonomie, un consentement pour les Blancs, c'est la suprématie blanche, mais en oubliant un certain nombre de non-personnes ou de sous-personnes, c'est-à-dire tous les groupes minorisés auxquels personne, aucun des Blancs en tout cas, n'a demandé leur avis lorsqu'il y a eu la conquête, la coercition, l'asservissement, etc.
Ou même les grandes déclarations de droits, d'indépendance, de droits humains, etc.
Ouais. Exactement. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France ne s'est pas accompagnée de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, notamment Saint-Domingue. Hein. On sait bien que...
C'est les révoltes.
Voilà, exactement. Exactement. Donc Mills dit, historiquement, le libéralisme n'a pas été à la hauteur des idéaux et des principes qui sont les siens. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'être. Et c'est ça, en fait, qui en fait donc, ce qu'il appelle un libéralisme noir radical. C'est l'étiquette qu'il revendique, notamment à partir de 2016 et dans son ouvrage de 2017. Donc, libéralisme noir radical, c'est-à-dire un libéralisme qui continue à dire la liberté, l'autonomie, les droits individuels, c'est fondamental, on ne peut pas y renoncer, et ça, c'est le cœur du libéralisme. Mais il faut penser et dénoncer la suprématie blanche, c'est-à-dire l'absence de personnalité accordé à un certain nombre d'individus minorisés, et il faut travailler à remédier ou corriger cette donnée. Donc, le libéralisme, historiquement, n'a pas pris en charge l'égalité et la justice raciale. Le capitalisme actuel est raciste, l'organisation sociale états-unienne, française sont racistes, mais il peut le faire. C'est-à-dire que le libéralisme n'est pas intrinsèquement, nécessairement raciste. Il a en lui les moyens de s'opposer justement aux mauvaises tendances historiques qui ont été les siennes. Et ça, dit Mills, ce serait révolutionnaire. Et là serait la véritable révolution. Et il plaide pour un libéralisme donc noir, radical, posé sur trois piliers, Kant, Marx et Dubois, ou Du Bois. Et ce sont les trois auteurs à partir desquels il dit... Alors oui, j'ai bien conscience que quand je dis ça, j'ai l'air de faire le mariage de la carpe et du lapin et qu'on va me dire, mais est-ce que c'est vraiment compatible et conciliable ? Il dit, oui, il y a, en dépit des nombreuses critiques qu'il émet à l'égard de Kant...
De Kant et du racisme...
Et du racisme de Kant.
Parce que je me permets de dire que Kant, en prépa littéraire, en philo, on nous assomme avec Kant. Donc moi, quand j'étais en prépa, c'était... le sujet de l'année, c'était le art et philosophie. Et donc le beau, Kant, etc., c'est... J'ai des souvenirs, des traumatismes de Kant avec des profs qui nous expliquent que de toute façon, on ne parle pas allemand. Je faisais ma prépa en Martinique, on ne parle pas allemand, donc on ne peut pas vraiment comprendre Kant, on ne peut pas comprendre Heidegger, on ne peut pas faire de philosophie, etc. Et par contre, on ne nous a jamais parlé de ce que Mills met en avant aussi dans l'œuvre de Kant, c'est un racisme de son époque, en tout cas du XVIIIe siècle. Voilà.
Ah, il est clair que Kant est, pour son époque... raciste plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même au XVIIIe siècle des gens qui commencent à poser beaucoup plus de questions et même des gens qui sont, disons, qui ont une pensée raciale ou racialisante sont moins racistes que Kant. Certains, une philosophe par exemple qui s'appelle Pauline Kleingeld dit qu'il y a une évolution dans la pensée de Kant et qu'à partir de la fin des années 1780, début des années 1790, il change d'avis. Et tous les textes, en effet, sur le beau, qui sont vraiment des textes extrêmement racistes, mais qui datent de 1764, au fond, à partir du traité pour la paix perpétuelle, le cosmopolitisme, Kant revient sur ces idées-là. En tout cas, il n'énonce plus des théories ou des jugements aussi ouvertement racistes. Et au contraire, il s'efforce de penser à un sujet moral qui soit plus réellement universel. Mais bon, en attendant, ça fait quand même 20 ans de racisme un peu... Enfin, très clair, enfin, très indéniable, quoi. Mais donc, voilà, donc Mills dit ça. Et néanmoins, il sauve Kant et dit qu'il y a avec Kant, justement, l'idée d'un cosmopolitisme, l'idée de personne morale, de personnalité morale, qui sont des idées fondamentales. Il prend Marx. Alors, il dit aussi que Marx est quand même raciste, mais l'idée de... la critique du capitalisme, l'idée de l'accumulation primitive liée à l'esclavage, l'idée de classe révolutionnaire, enfin tout ça, ce sont des idées qu'il reprend à son compte. Et enfin Du Bois, parce que Du Bois c'est le plus grand, dit-il, théoricien critique de la race et des racismes. Et avec Du Bois, on peut comprendre comment justement opérer ce que Du Bois appelle Black Reconstruction, c'est-à-dire une reconstruction aussi de l'idée africaine-américaine sur des bases égalitaristes, quoi. Mais voilà, c'est une position qui est évidemment critiquée de gauche comme de droite, quoi.
Je voudrais justement qu'on parle d'un autre auteur noir que Mills cite ou fait référence, Fanon, Les damnés de la Terre, son analyse du monde colonial. Je cite, et là donc c'est Mills qui cite Fanon, « La ville du colon est une ville repue, paresseuse, son ventre est plein de bonnes choses à l'état permanent. La ville du colon est une ville de blancs, d'étrangers. La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le village nègre, la médina, la réserve, est un lieu malfamé, peuplé d'hommes malfamés. On y naît n'importe où, n'importe comment, on y meurt n'importe où et de n'importe quoi. On est loin de la mission civilisatrice, non ?
Oui, on a toujours été loin de la mission civilisatrice, je crois. Le Mills en effet cite un Fanon, et il cite Fanon pour ce que vous venez de rappeler, et qui est un point très important du contrat racial de Mills, qui est sa dimension somatique, sa dimension physique. Et d'abord,
dans l'espace.
Et dans l'espace, et dans, d'abord, pour commencer, dans ce micro-espace particulier qu'est le corps. Oui. Et Mills, comme Fanon, et vraiment là, il suit le mouvement fanonien, le contrat, dit Mills, pèse d'abord sur ce micro-espace qu'est le corps, qui sous-tend ensuite tout le reste de l'espace public et qui existe ensuite dans tout le reste de l'espace public et lui donne une forme et un sens. Donc les corps noirs, dit Mills, sont vus d'abord comme des corps, en fait. Et Fanon, lui, parle de la couleur qui est fixée. Il parle du corps noir comme étant tout entier, toujours ramené à sa livrée. Vous savez, la livrée du laquais par opposition au maître. Les blancs sont des porteurs de droits abstraits. Donc, les blancs ont la possibilité, le luxe d'oublier leur corps, de ne pas voir leur corps, alors que, dit Mills, les corps noirs sont des corps pesants, enfin, qui occupent de l'espace géographique, qui sont trop visibles en tant que corps, avec toute une géographie sociale qui se met en place, un maintien des frontières, une délimitation, des postures acquises qu'il faut apprendre et qu'il faut régler, gérer dans un espace social où le corps dérange. Mais ils sont aussi invisibilisés en tant que sujet politique. C'est-à-dire que c'est des corps tout entiers réduits à leur corps, mais dépourvus du coup de cette... dignité du sujet politique, ce qui fait que, et là encore Mills reprend Fanon, à la limite, ils sont naturalisés, c'est-à-dire qu'ils font partie du décor, de l'environnement dans lequel le sujet européen blanc, lui, a le bénéfice d'une activité ou d'une agentivité politique, d'une capacité de décision, d'autonomie et de décision politique. Donc au fond, les corps noirs ne sont pas des partenaires de contrat, du contrat, seuls le sont les blancs en tant que sujet porteur de droits, justement. Et Fanon, dans la ville coloniale, à la suite du texte que vous venez de citer, parle de cette ville, dans la ville de l'oppresseur, comme celle où se fait le mouvement, où existe le mouvement et l'activité. Alors que la ville colonisée, Fanon écrit, dans cette zone figée, la surface est étale, le palmier se balance devant les nuages, les matières premières vont et viennent, légitimant la présence du colon, tandis qu'accroupi, plus mort que vif, le colonisé s'éternise dans un rêve toujours le même. Donc au fond, le colon fait avancer le progrès, l'histoire, la production, la consommation, la technique, la culture, Et en face, on a, dit Fanon, des êtres engourdis qui constituent un cadre quasi minéral, dit Fanon, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'opposition entre une agentivité et une passivité, entre le mouvement et la non-vie, au fond, ou le non-être. Fanon parle aussi de zone de non-être à propos de cette zone colonisée. Et ça, en effet, Mills cite Fanon et reprend cette analyse duelle à Fanon.
On revit un moment fanonien. Là, il y a le livre d'Adam Schatz qui vient de sortir, la biographie de Fanon. Je suis retombé sur son discours de 1956 au congrès de la Sorbonne, où il dit «
La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre ou en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui, contre l'ensemble du pays, ont raison. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure. »
Il dit qu'ils sont normaux. Ça veut dire, dans un pays raciste, la norme, c'est le racisme. Et être raciste, c'est juste être conventionnellement normal. Et en effet, il dit ça. C'est-à-dire, le racisme, c'est une culture et c'est un ensemble de normes. Et là encore, on retrouve l'idée de contrat. Hein. C'est-à-dire, ce sont des normes sociales, politiques, somatiques, épistémiques, culturelles, qui gouvernent toutes nos interactions. Et ne pas être raciste, c'est ne pas s'aligner, ne pas, disons, être un peu à part ou non conventionnel dans un ensemble, dans une culture colonialiste. Mais vous avez raison, c'est assez contre-intuitif, ouais. Et il faut faire attention quand on le lit.
Ouais, ouais, ouais. J'ai une dernière question pour vous. On arrive tout doucement vers la fin de cet entretien. Et il y a un mot qui revient souvent dans les débats français autour de l'identité, c'est le mot universalisme. Selon Mam Fatou Niang et Julien Ciodo, le pseudo-universalisme n'est ni une valeur, ni un principe, ni un concept. Il s'agit d'une arme doctrinale à laquelle on a assigné trois fonctions. Refouler l'histoire du colonialisme français, maîtriser le roman national et présenter le racisme comme un objet lointain, étranger, obsolète, sans aucune réalité ni actualité dans la France d'aujourd'hui. Commencez-vous.
Je suis assez près de penser ce que pense Mills, mais aussi d'ailleurs ce que pensent Mam Fatou Niang et Julien Swodo. Il ne faut pas confondre le pseudo-universalisme que vous venez de décrire avec leurs mots et qui est très juste, et l'universalisme. Ou ce que certains nomment, pour mieux faire la différence, l'universalisme tel qu'il a été mobilisé de manière hégémonique par une Europe qui s'en est emparée en son nom propre, en érigeant son propre particularisme en condition de l'humanité, et l'universel. Et l'universel, c'est, alors là, je reprends aussi les mots de Souleymane Bachir Diagne, l'universel, c'est un objectif, c'est une visée, c'est quelque chose vers quoi on tend, qui est peut-être toujours inachevé, mais qu'on n'a donc pas déjà réalisé et qui est quelque chose auquel on doit tendre, et on doit tendre par l'effort d'un monde commun. C'est-à-dire que l'universalisme, c'est ce qu'il s'agit de faire ensemble. Et donc, pour ça, il faut le vouloir ensemble. Et ces conditions du vouloir, elles sont compliquées. Et parfois, on a l'impression qu'elles s'éloignent de plus en plus, que des fossés se creusent et que des camps s'installent. Il me semble qu'un des efforts, je crois qu'un des efforts qu'on doit produire aujourd'hui, c'est justement de nous donner les conditions renouvelées d'un universel voulu ensemble. Ce qui veut dire prendre acte des différents particularismes, prendre acte des différentes positions, des différentes situations dans lesquelles on se trouve, pour ne pas imposer une de ces situations particulières comme modèle dominant qui aurait toute la forme de l'universel, mais construire un universel à partir de positions particulières, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'universel transversal ou l'universel horizontal, qui se construit par des efforts communs et pas de manière hiérarchisée en étant imposé depuis une position qui se fantasmerait comme une position de supériorité.
Chers auditeurs, auditrices, j'espère que cette discussion vous aura donné envie de vous procurer le contrat racial de Charles Mills. Au passage, il faut saluer la traduction menée par le rappeur québécois Alien DI, a.k.a. Webster, qui s'est attaqué à un sacré morceau. Madame Besson, je vous remercie de tout ce temps que vous nous avez accordé. Peut-être un dernier mot à ajouter ?
Ben merci. Merci beaucoup d'avoir eu cette occasion, oui, de parler de ce livre qui est un livre important. Un livre, vous l'avez dit tout à l'heure, dont la traduction a été un peu retardée, disons, et je pense qu'il est temps qu'on lise en français Charles Mills, Le contrat racial.
Très bien, merci beaucoup. Cette émission a été enregistrée le 8 avril 2024 et réalisée par Juliette Frégui, que je remercie. Je remercie aussi la FME pour son soutien et son accueil. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, suggestions, je suis tout ouïe. Plus que jamais, je vous invite à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et à le faire découvrir à des proches. Et comme toujours, si vous souhaitez participer à une balade, c'est simple, envoyez-nous un email leparisnoir@gmail.com. On revient le mois prochain pour une discussion sur l'esclavage dans le monde arabo-musulman, encore un sujet léger et pas du tout polémique. À bientôt.